Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous avez beau écouter Europe 1, la radio ouverte, vous entrez dans un club fermé, très fermé. Celui des meilleurs journalistes de la rédaction qui, chaque après-midi, pour vos beaux yeux et surtout vos belles cervelles, s'affrontent à coups de chronique. Un seul repartira avec la rutilante couronne de chroniqueur du jour. Et au moment de vous présenter Vano, nos deux ultimes concurrents, je sais parfaitement ce qu'ils se disent. Je lis dans leurs pensées comme dans un Mathieu Charrier ouvert.
Nous allons serrer les fesses.
Ah bah bravo.
Avec nous, depuis la terrasse ensoleillée d'un indécent penthouse avec vue sur tout Paris, elle ne semble pas très pressée de déconfiner. Alors que le directeur de la rédaction d'Europe 1 l'enjoignait à revenir bosser le 11 et qu'elle refusait, ce dernier lui a dit « Mais enfin, qu'est-ce qui te fera revenir ?»«
Ben, j'attends le prochain pot. » »«
Ben oui !»
Bonjour Eve Roger.
Ça, c'est une bonne raison, Eve.
Ça, c'est une très bonne raison.
Sympathique, non ?
Ben oui, bien sûr.
Enfin, j'attends le prochain pot, j'attends toujours mon spa. Hein. Toujours pas.
Il n'est pas là, le jacuzzi.
C'était ma première question, en fait. Le jacuzzi n'a pas été livré.
Non.
Ah là 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 là, foutu livreur, hein. Quand même,
ah oui,
on peut le dire. Hein. Alors, Eve, vous êtes la chef du service société d'Europe 1. Et en attendant votre jacuzzi, vous continuez de bosser. Vous êtes penchée aujourd'hui sur nos rêves, qui eux aussi sont envahis par le thème du confinement.
Et oui, pour une fois, je vais prendre de la hauteur. On va faire un peu de poésie. Je vais vous raconter effectivement comment nos rêves sont impactés par le confinement. Ce qu'ils disent de nous-mêmes, mais aussi de nous, le collectif.
Ah, ça m'intéresse, ça.
Vous rêvez beaucoup en ce moment, Eva ?
Énormément. Ouais, ouais.
Des mais, choses qu'on veut dire à cette heure de
Ah oui, bien sûr, sans aucun
Très
problème.
Bien. Ouais. Votre rivale du jour, Eve, ne dispose pas d'un penthouse comme vous, mais ça ne l'empêche pas d'être hautain. Dandy parisien n'ayant franchi le périph' qu'une seule fois pour un mariage en Normandie, Nicolas Caro porte un regard pour le moins dédaigneux sur les modes vestimentaires de certains de nos concitoyens vivant en province. Comme le prouve ce cri du cœur hier, au détour d'une confession de Stéphane Place, notre correspondant dans le Sud-Ouest.
J'ai une passion pour les crocs qui ne m'ont pas quitté depuis le début du confinement.
Oh mon Dieu.
Que ces gens n'ont pas de goût. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour. Non mais le faire passe encore, mais le dire à la radio...
Nicolas, vous n'avez pas reçu la photo de Stéphane Place de ses fameuses crocs.
Je préfère pas voir ça.
Je vais vous la transférer tout de suite. Voilà.
Ah oui, et bien, on pourra la reposter. Vous êtes, mon cher Nicolas Caro, le monsieur littérature d'Europe 1, et aujourd'hui, vous êtes tout excité de nous parler du dernier prix Pulitzer.
Mais oui, vous avez balayé ça tout à l'heure rapidement dans votre teasing. Vous avez dit, oh, puis on parlera du prix Pulitzer. C'est juste un événement historique qui a eu lieu hier. Pour la première fois, un auteur, Colson Whitehead, a obtenu le prix Pulitzer deux fois de suite. Il y en a deux autres, des très très grands écrivains, je vous en parlerai tout à l'heure, qui ont déjà eu deux Pulitzer, c'est très très rare. Mais là, deux fois de suite comme ça, ça n'est jamais arrivé. Et c'est la première fois, évidemment, que c'est un Afro-Américain qui obtient le prix Pulitzer.
Et c'est l'occasion ou jamais de découvrir cet auteur. Alors, découvrir justement le nouveau big boss de la littérature américaine, ou bien sonder vos rêves les plus étranges. Et Dieu sait qu'en ce moment, Eva, vous en faites des gratinés.
J'étais dans le corps d'un homme, donc c'était très bizarre d'avoir un sexe
énorme. Oui, nous.
Décortiquerons.
Bon, mon Dieu, oui, non, mais bon, ça suffit. Pour l'instant, si vous voulez bien, on va prendre des nouvelles de nos auditeurs.
Allez.
Plutôt. Comment ça se passe en ce 51e jour? Vous nous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail d'Eva, hein, Desperate Cougar. La pro, eva.rock@europe1.fr.
Bonjour Eva, bonjour Mathieu, c'est Laurence de Poitiers. Je vous appelle, je profite de votre antenne pour remercier mon frère Olivier qui m'a fait découvrir votre émission et grâce à qui, du coup, j'ai mangé beaucoup de replays ces derniers temps. Bien sûr, comme mon frère me conseille quelque chose, étant donné qu'on a les mêmes goûts, le même humour, je me précipite dessus et je ne suis pas déçue. Voilà, donc je voulais profiter de votre antenne pour faire tout ce que mon frère n'aime pas, à savoir un petit message un peu cucu pour lui dire que je pense à lui très fort, à toute sa famille, que lui et sa compagne travaillent en hôpital du côté de la Normandie. Et donc, je pense à eux. Et merci toute l'équipe de continuer à nous faire sourire tous les jours. Grosse bise.
On remercie Laurence et on remercie évidemment Olivier, son frère, hein, parce que sans qui Laurence ne serait pas avec nous. Donc voilà, on les remercie tous les deux.
AMC, on peut le dire, hein, heureusement, son frère était là et il avait bon goût.
Alors on a eu un deuxième message, Mathieu, mais je vais être obligée de vous le lire et vous allez comprendre pourquoi en fait.
Pourquoi
c'est un message de Cécile Raffin, donc, qui m'a envoyé ce message sur ma boîte mail et qui me dit, alors comme je ne sais pas envoyer un message vocal parce que je suis une vieille bique, je voulais juste vous dire que s'il vous plaît, continuez comme ça de nous faire rire. Je suis infirmière libérale, je passe beaucoup beaucoup de temps dans ma voiture. Ma tournée commençait normalement à 17h, maintenant elle commence à 16h. Elle finira un peu plus tard que 18h, mais au moins vous me faites rire pendant 2h. Merci et continuez. Prenez soin de vous, ce serait ballot d'être malade maintenant. Voilà, on voulait juste vous remercier, Cécile, vous dire qu'on avait bien reçu votre message et que même vieille bique comme vous êtes, et bien voilà, vous êtes avec nous aujourd'hui et on vous en remercie.
Mais oui, on accueille tout le monde, les plus jeunes, les vieilles biques, tout le monde est aimé et accepté dans ce club qu'est l'équipée sauvage. L'équipée sauvage se poursuit.
Europe 1.
À suivre, même confiné, il n'a pas renoncé à l'élégance. Chaque matin, il continue d'assortir méticuleusement ses pantalons en velours côtelé à ses vestes en tweed écossais et il passe ses journées à déclamer du Saint-Jean-de-Perse devant sa glace. Alors, s'il savait que pour ma part, le matin, je saute dans un short Adidas, j'enfile un vieux t-shirt Hard Rock Café Berlin et je lis Automoto, j'imagine qu'il s'exclamerait
« Oh mon Dieu !»
Oui.
Alors, si comme moi, vous pensiez que Colson Whitehead était un joueur de NBA, ne manquez pas la chronique de Nicolas Caro, notre expert littérature, qui vous fait découvrir le phénomène littéraire du moment.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Voilà 51 jours maintenant que vous écoutez l'équipe est sauvage confinée. Forcément, vos neurones sont un peu émoussés, l'enfermement nuit à vos performances intellectuelles, rassurez-vous, nous aussi. Il n'y a qu'à voir Nicolas Caro, notre expert littérature, qui jadis était capable de réciter de mémoire une dizaine de fables de La Fontaine sans se tromper. Désormais, c'est beaucoup plus approximatif.
La simèse ayant chaponné tous les terneurs, ce tube à fort dépuratif quand la bixacée fut verdie.
Oui, vivement le 11 mai, mon vieux. En attendant, Nicolas, vous nous faites découvrir aujourd'hui un auteur majeur qui vient de décrocher en toute décontraction son deuxième Pulitzer. De suite, il s'agit de Colson Whitehead. Et si jamais on ne le connaît pas, c'est le moment de foncer.
Oui, ben le prix Pulitzer, on le connaît pour le journalisme, mais il y en a un aussi pour la littérature. D'ailleurs, c'est l'une des récompenses les plus prestigieuses au monde. Et donc, cette année, c'est Colson Whitehead qui l'a obtenu. Colson Whitehead, il a 50 ans. On le connaît en France surtout pour son dernier roman qui avait été un gros carton, Underground Railroad, publié donc en 2017. L'histoire de Cora, une jeune esclave de 16 ans dans une plantation de coton en Géorgie, un état du sud des États-Unis. Elle est fille d'esclave, mais sa mère s'est échappée quand elle était petite, en la laissant là. Cora finalement réussit aussi à s'échapper. Elle va emprunter le Underground Railroad, le train souterrain. C'est une image, c'est le nom qu'on donnait au réseau de routes qui permettait aux esclaves fugitifs de quitter le sud pour rejoindre le nord. Mais dans ce roman, le Underground Railroad devenait un véritable train souterrain.
Vous aviez eu un coup de cœur pour ce livre, je m'en souviens.
Oui, c'était formidable, un peu surréaliste comme ça, mais juste une petite touche. Et Cora est poursuivie par un chasseur d'esclaves, une sorte de méchant, la Tarantino. C'est le roman d'une évasion. C'est génial, ce roman, c'est superbe. Et puis c'est aussi un roman sur la place des Noirs et un portrait de l'Amérique.
Et celui-là avait déjà reçu le Pulitzer.
Voilà, et Colson Whitehead vient d'en obtenir un deuxième hier pour son nouveau roman, donc celui qui a suivi Underground Railroad, qui s'appelle Nickel Boys, qui ne sortira qu'en septembre en France. Il est sorti en juillet dernier aux États-Unis. Mais c'est un événement parce que seuls deux autres écrivains avaient réussi l'exploit de cumuler deux Pulitzer, John Updike et William Faulkner. Donc excusez du peu. En plus de ça, pour Underground Railroad, Whitehead avait reçu aussi le National Book Award. Il est devenu une star de la littérature mondiale. Le Time Magazine l'a élu tout simplement le plus grand écrivain vivant.
Ouais.
Et comme tous les grands, il ne court en plus absolument pas après les honneurs et les mondanités.
Il a posé une réclamation, je crois.
Oh, Mathieu.
j'ai eu son éditeur hier au téléphone qui me disait qu'il était très surpris de remporter encore le Pulitzer, qu'il s'y attendait pas du tout, qu'il était un peu sonné. Ça l'arrange pas vraiment. En fait, il aime pas trop se montrer dans les médias, faire plein de trucs à droite à gauche, parce que quand vous avez le Pulitzer, c'est comme Miss France, vous voyagez partout.
Et, oui.
Et quand il est venu en France parler de Underground Railroad, je l'avais rencontré. C'est vraiment, c'est comme tous les grands, si vous voulez. C'est le mec le plus gentil du monde, la crème des hommes, pas du tout hautain, un grand noir très classe avec des dreadlocks. C'est le genre de type, vous savez, même sans savoir qui il est, quand il rentre dans une pièce, il remplit l'espace avec son aura.
Ah bah ça me fait penser un petit peu à vous, Nicolas.
Ben oui, un petit peu. Le Pulitzer en moi.
Et donc, qu'est-ce que raconte son nouveau roman ?
Ça s'appelle donc Nickel Boys. Nickel Boys, c'est en Floride. On suit l'histoire de deux jeunes garçons noirs à la Dozier School, une maison de correction, et tout le roman est bâti sur cette histoire vraie, un scandale aux États-Unis. La Dozier School, elle a bien existé, c'était une vieille institution en Floride. Elle a définitivement fermé en 2011, mais on sait qu'il y a eu des maltraitances et des morts aussi dans cette maison de correction pour gamins. Une enquête a été ouverte aux États-Unis et Colson Whitehead s'est emparé de cette histoire pour construire un roman, une fiction, donc avec donc ce décor absolument romanesque, mais qui parle aussi beaucoup, et c'est ça aussi peut-être qu'il a emporté pour le Pulitzer, qui parle aussi beaucoup du racisme, de la condition noire et de la violence sociale. Enfin, en tout cas, le bouquin, il est magistral, mais on en reparlera en septembre.
Oh, ça
et
donne envie déjà, ouais.
Il n'est pas encore traduit,
non,
il sortira
septembre,
traduit, là vous l'avez
Michel.
Lu, mais vous l'avez lu en anglais du coup.
Non, je l'ai lu traduit sur épreuve.
Ah, vous avez de la chance,
bah
mon petit cochon.
Attends,
je vais tenter, je vais tenter de le lire en anglais, mais je ne suis pas sûr de tout comprendre, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Merci Nicolas Carreau. Eva, une réaction?
Ah, mais moi j'adore Joe Star, hein. Voilà. Je lui ai déjà dit d'ailleurs, mais
d'accord.
il le sait.
Donc, bon,
vous
merci,
m'énervez.
On passe à 1000 mg hein, pour elle, on est d'accord. Merci, merci.
Europe 1.
Heureusement que je ne vois pas, imaginez un peu. Ce serait catastrophique.
Vous faites quoi, vous, ce soir? Deux scénarios s'offrent à vous. Soit vous avez la chance d'avoir épousé une femme immensément riche, chef du service société d'une célèbre radio, et vous aurez le droit de la rejoindre dans un jacuzzi pour une séance d'hydromassage coquin, après lui avoir évidemment préparé son mojito préféré.
Bonjour, c'est pas un mojito, c'est un spritz que je prends tous les soirs.
Soit vous n'avez pas épousé Ève Roger, vous n'avez pas de jacuzzi, et donc vous allez simplement, comme moi, mater la télé avec un bol de noix de cajou Leader Price. Mais ça peut être sympa aussi, pour peu que vous suiviez les conseils avisés des Varocs. Et tout de suite.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Il y aura un avant et un après confinement au sein de tous les couples. Alors qu'il y a 2 mois à peine, vous n'aviez qu'une hâte le soir, retrouver l'être aimé sur le pas de la porte et vous jeter dans ses bras en lui hurlant « je t'aime » en 5 langues différentes. Aujourd'hui, à l'heure des câlins, la communication se fait un peu plus compliquée.
T'es tendu comme une crosse.
Mais non, je suis pas tendu.
Si je te dis que t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha. C'est tout. Tu me dis oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu.
Pour éviter de vous engueuler, renoncez au sexe. C'est mon conseil. Regardez plutôt la télé. C'est en substance le message que nous martèle chaque soir Eva Rock. Alors qu'est-ce qu'on regarde ce soir, Eva?
C'est marrant, vous dites encore la télé, on regarde les écrans maintenant, vous
oui,
savez.
Mais moi je suis terriblement.
Ouais, c'est un peu
vieux jeu,
ouais, c'est vrai.
Je suis vieux jeu. Alors qu'en plus,
allez,
on regarde plus jamais la télé.
Mais oui, c'est vrai.
Les écrans.
Mais voilà.
Mais
eh ben,
oui,
alors,
vrai.
On commence justement avec la série du jour qui est à voir sur Amazon, qui est intitulée Upload et qui est présentée comme une série de, une œuvre de science-fiction. Alors disons pour être exact, c'est vraiment de la science-fiction plutôt rigolote. Hein. On est en 2033, il y a des entreprises qui vous proposent de vous uploader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rejoindre après votre mort un monde virtuel qui est plus ou moins luxueux en fonction de vos moyens. C'est ce qui arrive à Nathan. C'est un très beau jeune homme. Il a été victime d'un accident de voiture autonome. Il se retrouve à Lakeview, donc le paradis des uploads, grâce à sa petite amie, elle, qui est toujours vivante et qui a décidé de lui offrir cet au-delà. Et dans ce nouveau monde, Nathan, il est guidé par une sorte d'ange gardien, c'est Nora. Elle, elle est bien vivante, c'est une salariée exploitée par une des entreprises funéraires. Dialogue entre eux.
Ok, vous êtes parfaitement connectés maintenant. À vos yeux, vous avez l'air réel? 10 doigts, 10 orteils?
Plus vrai que nature.
Génial, alors allez explorer, découvrir, rencontrer vos nouveaux compagnons. Et rendez-vous compte de la chance que vous avez. Car c'est le premier jour du reste de votre après-vie, Nathan.
Alors, de votre vie après la mort, en vrai, hein, c'est ce qu'elle dit exactement dans le texte. Et le paradis de Nathan, vous allez le voir, va vite se révéler assez lassant, pour rester poli. Sur Terre, elle, Nora, elle tente de survivre dans un quartier défavorisé de New York. Et oui, je vous le dis tout de suite, les deux vont se rapprocher. Il va se passer un truc entre eux.
Mais je peux vous le dire.
Alors, mais surtout, ce qui est fou, c'est que c'est possible, en fait, parce que les nouvelles technologies permettent des trucs de dingue, aller rendre visite aux morts, donc avoir des relations sexuelles avec eux grâce à d'étranges combinaisons. Dans la vie réelle, par exemple, votre corps est scanné à l'entrée des magasins, histoire de vous indiquer la taille exacte des vêtements, mais aussi des préservatifs. Vous ne pouvez pas tricher en disant je vais prendre extra large. Non, monsieur. Il vous faut les préservatifs qui est un peu plus petit. Les voitures sont autonomes, évidemment. Les vélos se garent tout seuls. C'est formidable. C'est complètement fou. Et je reconnais que tous les délires technologiques qui ont été inventés pour la série sont assez drôles. Après, le seul bémol, c'est que sur le fond, la série, elle met du temps à poser les bonnes questions, comme celles qui sont relatives à la valeur de la vie, au transhumanisme, aux inégalités sociales face au numérique.
Vu le décalage technologique qu'il y a, il faut installer déjà ce monde-là. Quoi.
Oui, voilà, mais c'est pour vous dire qu'on n'est pas dans une série politique, il n'est pas question d'utopie ou de dystopie, c'est vraiment la comédie romantique complètement délirante qui vous fera passer un excellent moment. C'est sur Amazon Prime Video, allez-y, vous allez vous marrer, mais c'est très léger, voilà.
Moi, ça me fait envie. Et l'autre programme du jour ressemble à quoi ?
Alors, à une autre vision du monde. On en parlait avec Bertrand Piccard tout à l'heure et je pense que ça lui ferait plaisir de découvrir ce type incroyable qui s'appelle Steve Cutts. Il diffuse ses vidéos sur YouTube. C'est un Anglais de 25 ans. C'est un génie du dessin. Il est très inspiré notamment par les comics américains et ses films sont une satire du monde moderne. En 2017, il avait fait un premier film qui s'appelle Man, qui a été visionné plus de 40 millions de fois. Et il y a quelques jours, en pleine pandémie, Steve Cutts postait en fait la suite, Man 2020. Il faut que vous imaginiez une planète luxuriante avec cette petite musique. On découvre tous les animaux de la planète qui seraient heureux, qui cohabiteraient ensemble intelligemment. Et puis, au fur et à mesure de la musique qui va gagner en gravité, eh bien, le film gagne aussi en gravité avec l'urbanisation, la bétonisation, et puis, il faut le dire, la connerie de l'homme. Je vous conseille tous les films de Steve Cutts, c'est à découvrir gratuitement sur YouTube. Ce sont des œuvres d'art qui interrogent vraiment sur l'état de la planète. C'est remarquable. J'adore cet illustrateur. Vraiment, découvrez cet univers incroyable.
Mais nous allons découvrir cet univers avec gourmandise, Eva. Et le mix du jour, alors il ressemble à quoi ?
Alors il ressemble encore à un film d'animation où un coronavirus dialogue avec Palu. Palu, c'est un virus du paludisme. Et puis vous allez aussi entendre Mathieu Madénian qui martyrise les enfants des voisins.
Toujours,
écoutez le chantage dont l'humoriste est capable.
Eh hey, Palu ! Palu !
Ouais, Corona ?
T'as vu ce que j'ai fait ? J'ai enfermé les gens, j'ai mis l'économie par terre, partout on a peur de moi, le monde est à mes pieds, Palu.
Alors, je vais t'expliquer qui je suis vraiment, mon petit virus. J'étais là au temps des pharaons.
Oui, bon.
Ça fait un siècle qu'on cherche un vaccin contre moi.
Ah oui.
Je tue 400 000 humains par an, des milliards depuis que je suis là.
Ah ouais, quand même.
Et le truc le plus efficace pour me combattre, c'est la moustiquaire.
Avant de faire du babysitting, je faisais du stand-up. Vous voulez me voir ?
Oui. Okay.
Regardez. Là.
À promo, j'ai fait, je crois, une des dernières du Grand Cabaret de Patrick Sébastien. Vous connaissez, vous êtes jeune, le Grand Cabaret de Patrick Sébastien. Le concept, je vous raconte, en gros, t'as des mecs en costard qui regardent des Chinois qui volent. C'est un petit peu ça. Mais putain, ils font pas que des Nike. Alors,
ça vous fait rire ?
Ce que je vous raconte est vrai. Leclerc.
Tu dis que je fais rire, roi des granolas.
C'est vrai que ça m'a rendu.
Tout ça pour les granolas ?
Ta mère, c'est une pute, voilà.
Ah, il y a eu un gros mot, là.
Les enfants qui se mettent à rire parce qu'il leur a promis un granola. Mathieu Madénian qui nous régale avec ses vidéos. Voilà, exactement, que vous retrouvez notamment sur Facebook.
Très bon mix, Eva. Un mix qui m'a bien fait rire et qui me rend le confinement plus léger. C'est exactement ce qu'on lui demande. Merci, Eva, et merci à Sébastien Bordenave qui le prépare avec vous.
Europe 1.
Nos rêves ont-ils changé depuis le début du confinement ? Et pourquoi ma voix part-elle en couille ainsi ? Je ne sais pas, c'est une grande question. Je ne sais pas, ma voix m'a quitté l'espace d'un instant. L'enfermement, la période étrange que nous vivons, a-t-elle un impact sur nos songes nocturnes ? Eva, vous par exemple, vous vous souvenez de vos rêves ?
Je rêvais de toi cette nuit, tu étais nue sur un âne et tu jouais du sitar.
Justement, Ève Roger a enquêté sur nos rêves de confinés. On va vous apprendre à décrypter tout ça juste après Lauryn Hill. Can't take my eyes off of you sur Europe.
Refugee camp, conspiracy theory, why? Why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Okay. It's okay. Oh, pretty.
take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And no last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Take my eyes off of you, c'était Lauryn Hill sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipe est sauvage, ce grand écart facial que nous pratiquons chaque jour avec Eva Rock entre le journalisme le plus sérieux et le divertissement le plus potage. Deux heures également d'un spectacle à la fois cocasse et cruel, opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui s'affrontent à coups de chronique. Un seul sera élu chroniqueur du jour, peut-être Ève Roger, avec qui nous allons aborder à présent une question extrêmement intéressante. Le fait d'être confiné, enfermé 24 heures sur 24 avec des gens qu'on aime certes, mais qui au bout de 51 jours commencent à nous courir sur le haricot, a-t-il une influence sur nos rêves? Perso, oui.
Oh, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. On était tous là comme ça autour d'une table. Moi, j'avais un gros poisson dans la main. Et je donnais des coups sur la tête de maman avec, mais c'était le poisson.
Alors, Eve, est-ce qu'avec Jean-Pierre Bacri, nous sommes des exceptions ou bien on est nombreux à rêver ça en ce moment?
Non, mais Eva aussi nous l'a avoué. Beaucoup d'entre nous disent rêver plus et plus fort depuis que le confinement a commencé. Et les chercheurs disent que c'est vrai. D'abord, on rêve plus, tout simplement parce qu'on dort plus. C'est peut-être pas le cas d'Eva. Et puis, nos rêves sont plus vifs, plus vivaces, plus bizarres aussi parce que nous vivons des émotions très fortes. Notre vie quotidienne est toute chamboulée par le confinement. Et puis, enfin, le stress engendré par le confinement provoque aussi des troubles du sommeil. Et on a des tendances à faire des micro-réveils, évidemment, et ça nous permet de mieux nous souvenir de nos rêves, dont d'où le sentiment de rêver plus.
Alors là, je valide à 100% tout ce qui a été dit, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, ouais.
Quel type de rêve fait-on pendant le confinement?
Alors, ça vaut pas pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on rêve beaucoup, évidemment, de coronavirus et de contamination. Vous allez d'abord, on va commencer à écouter Maude. Maude, elle n'a que 14 ans, mais elle en fait des cauchemars. Écoutez.
J'étais allée au Champ de Mars, rejoindre une amie. Elle voulait me faire la bise. Du coup, moi, je voulais pas. Je voulais respecter les 1 mètre de distance. J'ai commencé à la voir verte et genre, j'ai su qu'elle avait le coronavirus. Plusieurs jours après, je pense, il y a sa mère qui m'appelle en me disant que Eva est à l'hôpital et qu'elle va mourir parce qu'elle a le coronavirus, etc. Et qu'elle voulait pas me dire au revoir, en fait, parce que je lui avais pas fait la bise. Bref, elle m'en voulait.
Alors voilà, c'est horrible.
Mais oui, c'est ça, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est des rêves de contamination, de culpabilité, de coronavirus. C'est très littéral, le rêve de moi.
Ouais.
Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus imagés. J'en ai trouvé plein d'autres sur les réseaux sociaux. Je vous en ai raconté un qui est beaucoup plus drôle. Je l'adore, celui-ci. C'est une jeune fille qui raconte qu'elle va dans un parc d'attractions qui a pour thème le Covid. Elle monte sur un grand manège, une espèce de train aérien. Chaque place représente un petit virus. Et la locomotive, c'est un gros virus. Elle lève la tête et elle voit le nom d'attraction. Il y a marqué Corona Circle. Et elle se dit. On est vraiment des pigeons, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça assez drôle. Donc là aussi, c'est assez imagé, un mélange de ses vacances, des films qu'elle regarde. Il y a beaucoup de rêves aussi autour de l'attestation. Je ne sais pas si ça vous parle. Enfin, c'est plutôt des cauchemars. Alors l'attestation, on ne l'a pas, on l'a perdue, on n'arrive pas à la faire sur son portable parce que notre vue est brouillée et les policiers ne sont pas loin. Une certaine Anne Le Gall, par exemple, raconte « Cette nuit, j'ai rêvé que je me baladais en bagnole et d'un coup, horreur, j'ai réalisé qu'il y avait des contrôles et que je n'avais pas d'attestation. » palpitations.
Ça, j'ai toujours su qu'Anne Le Gall avait des rêves aussi palpitants que sa vie. Et j'en ai la preuve aujourd'hui avec vous. Et comment peut-on, Ève, interpréter ses rêves autour des attestations ?
Eh ben, j'ai quand même appelé une psychanalyste pour lui demander. Et elle m'a répondu que ses rêves traduisaient en fait l'ambivalence entre notre souci de bien faire, d'obéir à la loi, c'est-à-dire sortir pour aller faire ses courses et trois fois le tour du pâté de maison. Donc entre notre souci d'obéir et notre désir de sortir sans avoir à se justifier, simplement pour s'amuser, se balader, comme dit Anne. Vous voyez, elle dit, je me baladais en bagnole et tout d'un coup, pam, ça me tombe dessus. Et ce qui est passionnant, c'est que plusieurs chercheurs, dont cette psychanalyste, en ce moment sont en train de collecter les rêves des confinés, pour essayer de comprendre comment notre psychisme est marqué par cette période. Alors, il y en a d'autres qui l'ont fait au moment du Troisième Reich, par exemple. Il y a un livre qui s'appelle « Des rêves sous le Troisième Reich ». Donc c'est le cas aujourd'hui d'Elisabeth Serin, donc elle est psychanalyste. Elle a déjà reçu autour de 300 lettres. Et vous allez l'entendre, elle a déjà commencé à faire le tri. Écoutez.
Les rêves un peu de catastrophe, des hélicoptères, des avions qui s'écrasent, des gens qui prennent des trains, ils ne savent pas trop où les trains vont, les trains s'arrêtent, ne vont pas dans la bonne direction, on est obligé de changer de gare, sa famille reste sur le quai, ou alors ils sont dans un autre wagon, on ne peut plus parler. C'est aussi, bon, cette fameuse histoire des rêves érotiques, qui prennent parfois une tonalité aussi qui est étonnante, parce que c'est parfois avec des voisins, c'est-à-dire c'est parfois avec des gens qu'on n'a pas choisis, ou avec qui dans la réalité on n'a pas vraiment d'affinité, non ? C'est une histoire de proximité, quoi, presque, en fait.
C'est drôle, ça.
Voilà, alors j'ai demandé, mais ça veut dire qu'on a envie de coucher avec nos voisins ? Elle m'a répondu, non, pas du tout. Ça veut dire que nos désirs prennent le visage de nos voisins dans nos rêves, parce que c'est eux qui sont plus présents dans notre vie, parce que c'est eux qu'on voit le plus par rapport au reste de la vie.
Donc les rêves. Eva, vous avez des bonnes relations avec vos voisins en ce moment
ou... Oui, mais c'est pas d'eux dont je rêve, non. Ouais.
Bah, vous rêvez de qui ?
Mais je sais pas, je les connais pas, les gens qui sont dans mes rêves, en fait.
Ils n'ont pas de visage, mais ça veut dire quelque chose.
Souvent, ils n'ont pas de visage. Non, mais c'est vrai.
On dit souvent que les rêves, tous les personnages des rêves sont une part de nous-mêmes. Donc qu'il ait un visage ou qu'il n'en ait pas, finalement, ça reste nous, c'est une part de nous.
Je vous raconterai hors micro, mais c'est pas une bonne nouvelle, je vous le dis tout de suite.
Elle fait l'amour avec elle-même.
Non, pas du tout.
Et baroque. Et pleine de surprises. Alors, tout le monde fait ce type de rêve lié au confinement ou au coronavirus, ou ça concerne qu'une frange de la population ?
C'est pas obligatoire, c'est pas comme les masques, chacun, ça dépend un peu de notre propre perméabilité aux événements. Il y a des gens qui continuent leur vie intérieure et psychique tout à fait comme avant. Ça dépend aussi de notre niveau d'anxiété. Et puis, ce que cette situation réveille en nous, vous savez, nos vieilles angoisses et les traumatismes de l'enfance. Mais je peux pas aller beaucoup plus loin là, parce que Mathieu, sans risquer d'entrer par effraction dans votre inconscient.
Là, on n'a pas envie de voir ce qu'on pourrait y trouver. Franchement, je ne sais pas si on pourrait en parler à cette heure. Merci, Ève Roger. Et puis, sur un plan personnel, si vous deviez résumer en trois mots votre confinement.
Les sextoys, les sextos, le porno.
Merci.
Europe 1.
Non, évidemment, on est un peu surpris parce que vous venez de nous dire Ève en même temps, comme disait Max Boublil.
Après, qui est-on pour juger du hobby de l'un ou de l'autre ?
Oui,
à suivre. On ouvre l'album Souvenirs et parmi nos invités les plus marrants, il y avait eu justement Max Boublil. À tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipé sauvage. L'équipé sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Chaque jour, depuis le début du confinement avec Eva, on vous propose de réécouter l'interview d'un invité qu'on avait adoré. Aujourd'hui, une séquence que Nicolas Carreau avait hâte de réentendre, car il se souvient que la venue du comédien Max Boublil pour le film Play lui avait offert l'opportunité d'un fabuleux jeu de mots.
Oh mon Dieu!
Il s'en souvient, oui. Jeu de mots qui avait bluffé Boublil lui-même.
Il plaît.
Joli.
Waouh.
Hein?
Rassurez-vous, le reste de l'émission était beaucoup plus drôle. C'était le 17 décembre dernier, on recevait donc Max Boublil. Bonjour Max.
Bonjour, ravi d'être ici.
On est ravi de vous accueillir. Alors, beaucoup de chemin parcouru depuis, tu vas prendre. Vous êtes toujours une star du net, mais vous avez également percé au cinéma avec notamment, on en parlait déjà en antenne, Les Gamins d'Anthony Marciano avec Alain Chabat. Quiconque n'a pas vu Les Gamins doit immédiatement se le procurer en DVD. C'est un ordre que je vous donne.
C'est très gentil.
Et dans le film d'Anthony Marciano, Play, alors là encore, c'est très réussi. Pour vous d'ailleurs, vous lui avez dit c'est son meilleur film.
Oui, c'était, vous savez, avec Anthony, on se dit pas beaucoup de compliments. On a du mal à se dire les choses. On est comme d'un vieux couple, on se dit que quand ça va pas et on s'appelle pour s'insulter. Et là, je lui ai dit le seul compliment que je pouvais lui faire, parce que lui m'en fait pas non plus. Je lui ai dit, écoute, je pense que tu feras jamais un meilleur film que ça. C'était la meilleure manière de dire que c'était un bon film, tu vois, pour moi.
Avis à tous les nostalgiques du Biactol, de Pas de pitié pour les croissants et des Weetabix trempés dans du lait pas bio. À tous ceux qui, comme moi, ont roulé leur première pelle sur. Et on ont découvert leur sexualité devant le téléfilm Coquin d'M6 dans des conditions d'intimité, disons, relatives.
Poussin, c'est très vilain de jouer avec ton petit oiseau quand mamie est dans la chambre.
Il y a de grandes chances pour que vous adoriez, c'est vrai.
Si c'était là-dessus que t'as découvert ta sexualité, mon pote. Mon Dieu.
Moi, je pense que vous allez adorer Comme nous plaît d'Anthony Marciano avec Max Boublil, un film dont vous avez signé le scénario et les dialogues. Ah, je raconte en quelques mots l'histoire pour nos auditeurs. Nous sommes en 1993. Max a 13 ans, ses parents lui offrent sa première caméra. Pendant 25 ans, il va tout filmer. Sa bande de copains, ses premières soirées, ses premiers amours, ses réussites, ses échecs. On va suivre sa vie. Tout le film est réalisé de votre point de vue. Mais à travers vous, on va nous aussi revivre quelque part cette époque. Ça parle vraiment à tout le monde, en fait, ce film.
Oui, parce que, en fait, nous, au début, on a écrit ce film avec Anthony. On s'est dit, on va faire un film de 30, 40 nerfs. Bon, on va avoir aux projections des 30, 40 nerfs qui vont dire, c'est fou, c'est toute ma vie et tout. Et finalement, on se rend compte que les jeunes rentrent vachement dans le film, les 18-25, parce que c'est des trucs qu'ils vivent actuellement. Et les plus vieux, les seniors, vos auditeurs.
c'est et ça y est, il attaque
et ça y est, ça mord, hein, ça faisait le malade, ça faisait le canard, il y avait une patte en moins. tout ça, c'est pour mieux mordre, évidemment. Non, et c'est très, très, très fou parce que chez les seniors, voilà, les cheveux blancs, tout ça, et bah, ils se disent, bah, nous, c'était pareil aussi de notre temps. On vit les mêmes trucs, on a vécu la même chose. Et on pensait faire un film plus générationnel, et là, on se rend compte qu'il parle à beaucoup de monde, quoi.
On a adoré Play. La question qu'on se pose, c'est tout simplement quelle est la part d'autobiographie dans ce film ? Est-ce que, en l'écrivant avec Anthony Marciano, vous avez pioché dans vos mémoires personnelles ?
Oui. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont à moi et beaucoup de choses qui sont à Anthony. On pensait faire un film un peu personnel. Finalement, en faisant les avant-premières, les gens se reconnaissent vachement, nous disent c'est marrant, vous racontez ma vie et tout. Mais c'est vrai que les actions ou vérités, j'en faisais plein. Le bac, les répètes du bac en musique, moi je l'ai fait avec. Voilà, je l'ai fait. L'accident, le premier jour de mon permis, j'ai vraiment eu un accident. Accident de voiture avec un mec
qui m'a menacé aussi
avec un tournevis. Moi, je me suis enfermé dans ma voiture courageusement, comme d'habitude. Il m'a pas pissé dessus comme dans le film. N'importe quoi. Donc, il y a beaucoup à moi et beaucoup de choses à Anthony. Je pense que voilà.
Eva,
est-ce que vous pourriez nous décrire votre chambre d'ado, votre vraie chambre d'ado?
Vous avez comme poster dans cette chambre d'ado, parce qu'on a des sacrées casseroles chacun d'entre nous. Je pense.
Moi, je me souviens que mes parents m'avaient autorisé à taguer sur les murs.
Ah ouais. C'était très progressiste.
Ça s'appelle un fils de riche, tout simplement. j'avais dit fuck Monsieur El Mamelouk. C'était mon prof de maths que j'aimais pas. Il y a des trucs comme ça, des caricatures de Madame Gauthier, une prof, tout ça. Et oui, il y avait beaucoup de fuck, de zizi, et voilà. Et sinon, j'avais un bureau en verre, j'avais un poster des Crados, comme dans le film, j'étais plus petit. J'avais une guitare électrique parce que je voulais ressembler à Kurt Cobain. Qu'est-ce que j'avais? Des ponchos, des pulls troués pour ressembler à Kurt Cobain. Pas mal de Stephen King aussi. Une caméra. Et une télé.
Vous parliez des affiches
des cochons d'Inde, pardon, des cochons d'Inde.
Ah
j'ai
bon
eu beaucoup de cochons d'Inde quand j'étais petit. Je sais pas si toi aussi, j'ai l'impression que dans ton regard, il y avait, t'avais envie de l'approuver. Ça,
je vais pas parler de ça parce que c'est très personnel, mais à la maternelle, il y avait un cochon d'Inde qui s'appelait Didou, et on se leur filait de semaine en semaine.
C'est
chacun. C'était une garde alternée de cochons d'Inde.
Mignon. Secret de
t'as
star.
T'as vu, c'est très compliqué à garder un cochon d'Inde.
Mais oui,
ça sent fort.
Fragile.
Il faut changer, c'est fragile.
Alors dans le film Play, dont on parle depuis tout à l'heure, vous faites revivre la victoire de la France à la Coupe du Monde 98. Alors ça nous fait tous remonter des souvenirs, et on se posait la question avec Eva.
Oui, il y a vos personnages qui sont dans la foule de 1998, place de l'Hôtel de Ville à Paris. Donc on ne sait pas trop comment vous avez pu faire.
Est-ce que tu demandes à Cyril Lignac comment il fait son motif?
Oui,
justement,
oui,
je lui demande.
Oui. Ah oui, je confirme, je lui demande.
Alors je vais te le dire. Oui, c'est ça. Alors en fait, on a pris des images, on a cherché des images d'archives de ce moment-là, France 98, des gens qui filmaient sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et il faut savoir, étonnamment, il n'y en avait pas beaucoup. Pas des images de caméras sur pied, de professionnels, on cherchait vraiment des images amateurs. On en a trouvé quand même, et à ce moment-là, on a mis les acteurs dans la même situation, dans un mouvement de caméra, habillés comme les gens de l'époque, avec des figurants autour d'eux. Comme ça, on a eu l'impression de passer directement au rush, aux scènes recréées du film. Voilà.
Ah, mais c'est incroyable, ça marche vraiment très très
c'est
bien.
Vrai que
vraiment.
C'est
après,
très
voilà,
bien
j'ai
bien
vraiment
bien.
Niqué toute la magie.
Et ne plus avoir d'invité en studio est bien évidemment regrettable, sauf en ce qui concerne la chronique gastronomique d'Olivier Pouls. Là, c'est plutôt une bénédiction, puisque ça signifie plus de problèmes avec les ambassades. Notamment avec celle des pays du Maghreb, Olivier Pouls, alias OSS 118, n'ayant qu'une idée approximative des frontières entre Algérie, Maroc et Liban. Approximation qui vaut aussi pour la prononciation du nom des plats.
Et est-ce que vous connaissez, alors c'est pas un mauvais jeu de mots de Mathieu Noël, les ricaca?
En fait, ça se prononce pas comme ça, en fait, en vrai.
Nouvelle
l'incident diplomatique.
C'est de l'arabe, ça se dit ra'at.
Vous pouvez redire
ra'at, ouais.
Ah oui, non, ça, là, oui.
Il ne faut pas pousser. Olivier Pouls arrive pour délister extrémiste. Juste après l'ordi Royal sur Europe 1. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns stretching the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. C'était l'ordi sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il fait partie de ces citadins ayant choisi l'exil à la campagne. Il est en duplex avec nous depuis sa maison en Bourgogne. Depuis 51 jours maintenant, Olivier Pouls a renoué le contact avec la nature, les choses simples. Et il ne chôme pas, il est l'expert gastronomique pour Europe 1 et expert sexo pour Dorsel TV. Notez mesdames que certains de ses conseils valent pour les deux activités.
Non, il n'y a pas besoin de soulever le croupion, ça, c'est, il le saura lui-même.
Mais non.
Quelle vie professionnelle, vraiment. Vous êtes partout, Olivier Pouls.
Oh,
mais où, comment joindre l'utile à l'agréable,
ouais. Je vois ça, des bons conseils. Et alors, cette semaine, vous continuez sur... Alors nous, on est sur Europe 1, on n'est pas sur Dorsel TV,
pour la
donc c'est des conseils,
ouais.
Des conseils culinaires. Avec des recettes
à
faire en famille. Donc vous trompez pas de fiche, hein, vous êtes sur les recettes familiales un peu régressives cette semaine.
Ben, je vous avais promis hier de vous parler des pommes soufflées.
Ah oui, c'est vrai.
Accompagnement magnifique.
Ah, je note.
Alors,
la recette.
Les pommes soufflées, allez-y. Ça fait partie de ces plats qui ont été inventés un peu par un malentendu en quelque sorte. Alors nous sommes en 1837. Savez-vous ce qui s'est passé en 1837, les amis?
Ben non,
vous le savez pas.
Choses, mais non.
Non, mais je vais vous le dire. C'est l'inauguration de la ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye. Alors vous me dites ça me.
Oui.
Je vois pas le rapport avec les pommes soufflées. Mais cette ligne est inaugurée par le roi Louis-Philippe, à qui on a promis un banquet lorsqu'il allait arriver à Saint-Germain-en-Laye. Le cuisinier lui a prévu de faire des pommes de terre à l'époque qu'on faisait simplement frire dans l'huile. Mauvaise nouvelle, on apprend au cuisinier que le train a dû retard et que donc ben, il doit se débrouiller parce que le repas ne pourra pas être servi à l'heure. Il avait commencé à cuire ses pommes de terre, il les sort immédiatement de l'huile, il attend que le souverain arrive, passe à table, il les remet dans l'huile à ce moment-là et qu'est-ce qu'il constate ? Comme par magie, que les pommes de terre se mettent à souffler. Il a inventé à ce moment-là ce qui va devenir un des grands accompagnements de la cuisine bourgeoise. Exactement. Alors pour la recette, écoutez-moi bien. Vous allez donc, ma chère Eva, prendre des pommes de terre, des binches par exemple.
Oui.
Vous les épluchez, vous les laissez surtout pas tremper dans l'eau. Vous allez juste les passer sous l'eau et les essorer.
Le curé, il vous appelle. Là,
je lui fais signe que j'en ai pour 2 minutes. Vous allez juste les essorer. Vous allez les tailler en fines rondelles de 3 mm d'épaisseur, alors soit avec une mandoline si vous avez ça, ou habilement avec un couteau, et vous les plongez ensuite dans un premier bain à 140 degrés, un premier bain d'huile. Et là, il y a une astuce qui est très importante, c'est que pendant la cuisson qui va durer, la pré-cuisson en fait, qui va durer 7-8 minutes, il ne faut pas arrêter de remuer les pommes de terre dans l'huile. Avec une petite écumoire, vous créez une espèce de tourbillon ou de mouvement, de vague. Et il faut pendant, et ça dure un petit peu de temps, 7-8 minutes comme ça, donner un mouvement des pommes de terre dans l'huile. Et vous allez voir qu'après 5, 6, 7 minutes, elles vont commencer à cloquer. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? C'est l'humidité qui est à l'intérieur de la pomme de terre qui cherche à s'échapper, c'est difficile à dire, et qui vont donc commencer à faire gonfler la pomme de terre. Après 8 minutes, vous les plongez immédiatement dans un autre bain qui lui est à 200 degrés. Et là, c'est instantané, paf, vos pommes de terre se mettent à souffler comme une espèce de ballon qu'on serait en train de gonfler, comme un ballon de rugby. Et c'est magique. Et là, vous les laissez encore 1 minute 30 de manière à les colorer. Et puis, vous pouvez les servir. Alors vous allez me dire, oui, mais si j'ai pas deux bains, c'est un peu compliqué, est-ce qu'on peut y arriver quand même?
Mais il faut déjà avoir deux baignoires,
Mathieu, je sais que vous avez au moins une friteuse, donc avec une friteuse, on peut y arriver. Voilà, qu'elle serve au moins à quelque chose, je vous remercie. J'ai l'impression qu'elle prend la poussière dans le garage. Enfin bon, bref, vous allez donc faire cette première cuisson, vous allez sortir vos pommes de terre et vous allez les ranger, mais alors méticuleusement, sans qu'elles se chevauchent et surtout sans les trouer sur un linge. Quand vous aurez fait vos premiers bains de pommes de terre, vous montez la puissance de la friteuse à 200 degrés et ensuite vous pouvez les souffler, ça marche aussi.
D'accord. Bon, j'ai pas de friteuse, mais c'est pas grave. Bah oui, c'est fini, ça suffit, ça a cloqué. Ah bah,
c'est instantané, ça cloque.
11 heures passées en cuisine, on a enfin un accompagnement. Il reste à faire l'entrée, le plat, le dessert. Merci Olivier. Heureusement qu'on est confiné et qu'on a beaucoup de temps, beaucoup de temps devant nous. Merci Olivier Pouls.
Bon, demain, je vous fais plus simple et plus rapide. Hein.
Allez. Oui, demain, une danette. Une Danette et Oli. Merci Olivier Pouls. À demain.
Europe 1.
Qui sera élu chroniqueur du jour? Alors que le moment forcément solennel du vote approche, on peut compter sur Eva Rock pour ne pas ruiner ce moment avec une réflexion graveleuse. C'est l'heure du vote. Attention, je dois voter pour l'un d'entre eux. Alors bon, comme ma compagne écoute, je ne vais pas voter pour le porno, même si mon point vous va à vous, évidemment, à Nice, le point du cœur.
Oh, le point du cœur, vous êtes sûr? Non, mais c'est vrai.
Eva, essayez d'être un peu plus poétique que la dernière fois. A tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Ils finissent cette émission sur les rotules. Une fois de plus, les meilleurs journalistes d'Europe 1 se sont affrontés au service de votre savoir. Des journalistes qui, chaque après-midi, enquêtent, analysent, posent des questions. Et même si ces questions sont parfois douloureuses pour Eva Rock...
Est-ce qu'on aime aller au cinéma seul ou accompagné?
Ouais, ben y en a qui n'ont pas le choix, hein, pardon.
Je les félicite quand même.
Voilà.
Pourtant, un seul sera élu chroniqueur du jour, lequel? C'est l'heure du quitte au double. Chaque journaliste a 10 secondes pour plaider son dossier. Nicolas Caro, pourquoi voter pour vous aujourd'hui?
Mais parce que, en avant-première, je vous ai présenté le livre dont tout le monde parlera en septembre. Vous êtes donc en avance grâce à moi.
Ah oui.
Et rappelons le titre de ce livre et l'auteur qui vient de recevoir le prix Pulitzer pour la deuxième fois.
Nickel Boys de Colson Whitehead.
Et on peut vous suivre là-dessus puisque son précédent roman Underground Railroad était fabuleux. Ève Roger, pourquoi voter pour vous? Peut-être pour financer ce jacuzzi qui peine à arriver, mais peut-être une autre raison plus journalistique?
Non, non, vous allez voter pour moi parce que je vais vous raconter deux rêves. Un avouable et l'autre qui ne l'est pas. Le premier avouable, c'est que j'ai très envie de retrouver un studio avec vous à partir de la semaine prochaine. Ça, c'est l'avouable. Ouais. Peut-être c'est même mignon. De boire un spritz sur ma terrasse avec vous. Et mon deuxième rêve non avouable, parce que je veux retourner en tête de cette compétition.
C'est une bonne raison.
Vous n'êtes pas très loin de la tête de cette compétition, mais vous n'êtes plus première comme auparavant. C'est vrai, je crois que c'est... Je n'ai plus le classement solide, mais
Alain Sirou,
que c'est
il me
Alain Sirou qui domine, qui survole la compétition actuellement. Anissé Mbida, un autre leader du temps jadis, aujourd'hui relégué dans le milieu de classement. Pourquoi voter pour vous cet après-midi ?
Il y a très longtemps. Parce que vous l'avez dit, malheureusement, avec la crise, le marché de l'emploi va devenir de plus en plus tendu. Donc pourquoi ne pas s'armer en s'appuyant sur l'intelligence artificielle ? Moi, je suis très utile, très pratique dans mes sujets.
L'intelligence artificielle qui nous aide, vous nous l'avez appris aujourd'hui, à préparer un entretien d'embauche. Axel de Tarlé, pourquoi voter pour vous et toutes vos mauvaises nouvelles sur le plan économique ?
Et qui nous aide à licencier l'intelligence artificielle. Sur la chronique d'Anissé. Non, c'est utile en ces moments de crise. Mais justement, moi j'ai changé la nature de ma chronique. Maintenant, c'est la chronique on va tous crever. C'est la chronique qui va mal. La dernière fois, c'était sur la croissance qui s'écroule
c'est
et
vrai.
Le CO2 qui s'envole. Cette fois, c'est tous les atouts de la France qui partent en fumée. Voilà.
Et oui, on va passer dans le mur, mais vous avez le courage de regarder ce mur droit dans les yeux. Ah non, mais là, il a décidé de se saborder. Oui, pourquoi pas ? Alors, nous votons, je réfléchis, et aujourd'hui, je vote pour Nicolas Caro, sans l'ombre d'une hésitation. Ah. Car effectivement, ce roman, nous parler d'un roman qui n'est pas sorti et qui en plus va être l'événement de la rentrée littéraire, le prochain livre de Colson White, être jeudi, chapeau, et j'ai hâte de le lire. Un point donc pour Nicolas Caro et Varrock. À qui attribuez-vous votre vote aujourd'hui ?
À Ève Roger, parce que le sujet m'a fasciné. Voilà. Et j'ai envie d'en savoir un peu plus d'ailleurs sur l'interprétation des rêves en période de confinement.
Vous qui rêvez beaucoup et vous posez beaucoup de questions, notamment sur ces rêves que vous faites avec vos voisins. Alors, ma foi, il nous reste à découvrir le vote de notre réalisateur Romain Causeur.
Mathieu, aujourd'hui, mon point, je vais le donner à Axel de Tarlé.
Ah bah voilà.
Axel de Tarlé.
Merci.
Romain Causeur, visiblement, aime se faire du mal. Très bien, il a octroyé son point à la chronique Feel Good d'Axel. Mais ce sont les auditeurs qui choisissent ici, Eva.
Et ils ont choisi Ève Roger, qui attribue 2 points. Voilà, 3 points pour Ève aujourd'hui.
Ève Roger, une victoire d'Ève Roger qui la relance au classement général que je n'ai pas sous les yeux. Je ne peux donc pas le commenter, mais certainement, elle est à touche-touche avec Alain Sirou. En tout bien, tout honneur, évidemment. C'était la 167e journée de l'équipée sauvage. Je remercie mes confinés du jour, Eva Roque, Ève Roger, Axel de Tarlé, Anissé Mbida, Nicolas Caro et Olivier Pouls, Romain Causeur et Rémi Duprat en régie. L'équipée sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Crêpe pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.